Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
The man who holds the honors for having traveled the furthest to get here to play for the Chicago Blues Festival tonight, having just flown in from Paris this afternoon, a former Chicagoan who's here to prove that you can take the blues man out of Chicago, but you can't take Chicago out of the blues man. Please welcome Luther Allison.
Watching you.
Le musicien que nous allons saluer cette semaine aurait mérité d'être célébré tel une icône du XXe siècle. Mais le destin le privera d'une reconnaissance unanime à laquelle il aspirait tant. Né en 1939 dans l'Arkansas, Luther Allison, c'est son nom, connaîtra les humiliations et les brimades du bluesman noir dans l'Amérique ségrégationniste. Voilà pourquoi toute sa vie, il cherchera à rapprocher les cultures, à provoquer des rencontres et à partager son enthousiasme avec ses contemporains. Alors que sa renommée semblait le hisser au rang des grandes figures de notre temps, la maladie le rongeait de l'intérieur. Le 12 août 1997, Luther Allison nous quittait, fauché en pleine gloire, par un cancer sournois et indétectable. Un mois plus tôt, il était encore sur scène, heureux de pouvoir échanger et dialoguer avec un public qui l'acclamait avec chaleur et un profond respect. La disparition de Luther Allison à quelques jours de son 58e anniversaire fut un choc psychologique brutal et violent pour nombre de ses admirateurs et amis. Le regretté guitariste et chanteur français Patrick Verbeek nous avait souvent parlé de son ami Luther Allison et a longtemps gardé en mémoire cette triste journée d'été 1997.
Ce qui s'est passé avec Luther Allison, c'était effroyable, quoi, parce que en fait, moi, je l'ai rencontré juste avant qu'il parte aux États-Unis, c'est-à-dire fin avril, puisque le 1er mai, il était à Memphis, il recevait 3 Andy Awards, l'équivalent des Oscars du blues, quoi. Et puis il a joué au festival de Beale Street, et puis après, il est parti. Il m'avait donné avant de partir le programme de sa tournée. C'était une tournée fabuleuse à travers tous les États-Unis, dans toutes les House of Blues et tout ça. Moi, je revenais des Francofolies. On venait de jouer au Franco, et c'était donc le 15 juillet. Et le lendemain, en descendant du train, j'ai eu un coup de fil sur mon portable m'annonçant que Luther était hospitalisé et que c'était très grave. Qu'il avait vu, en fait, la veille, dans son concert de la veille, en montant sur scène, il avait vu 2 micros au lieu d'un. Et comme Luther n'était pas du genre à boire de l'alcool, ça voulait dire que quand même il se passait des choses assez graves dans son organisme. Et donc il a été hospitalisé et là... Ils l'ont, je dirais, surchecké parce que c'était quelqu'un qui s'occupait vraiment de sa santé, qui faisait beaucoup de sport, qui buvait pas, qui fumait pas. Enfin bon, vraiment, il menait pas une vie d'ascète parce que, par contre, au niveau du blues, on peut dire que ça y allait. Mais je veux dire, ça a été très, complètement incompréhensible que tout d'un coup on s'aperçoive que non seulement il avait un cancer du poumon, mais en plus que ce cancer du poumon avait déjà eu des métastases qui s'étaient développées, qui étaient montées au cerveau, et il avait une énorme tumeur au cerveau, ce qui lui a donné cette, ce qu'ils appellent double vision, qui ensuite s'est traduite. Alors ensuite, moi j'ai suivi à la fois par des coups de fil à son manager en Allemagne, et puis à des amis communs, et puis aussi par l'internet, parce que Rocky, sa femme, nous laissait des communiqués sur internet, et donc le dernier bulletin de santé, c'était le 7 août, donc 15 jours, 3 semaines après qu'ils aient découvert la maladie, où lui-même disait qu'il avait les yeux qui roulaient dans leur orbite et que ça lui faisait l'impression d'être une machine à sous qui serait déréglée, dans laquelle il verrait plus que les cerises qui ne s'arrêtaient pas de tourner. C'était sa phrase et c'était l'image qu'il employait. Je dois dire que si ça avait continué, ça l'aurait énervé, hein, je crois. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est éteint doucement. Et ça, c'est ce qui m'a profondément marqué, parce que bon, j'ai craqué, je suis allé aux funérailles à Chicago, qui ont eu lieu le 17 août. C'était le jour de son anniversaire en plus, enfin bon, une espèce de clin d'œil du destin, là, plus qu'ironique. Et donc, même ces funérailles, c'était ni religieux ni laïque, c'était tout à la fois, mais c'était très spirituel, c'était soul, quoi, comme on pourrait dire. C'était son road manager américain qui a un peu joué le rôle de MC, et j'ai un souvenir vraiment ému. Quand il est arrivé, il y avait bon, le corps de Luther là, qui reposait, qui avait l'air très serein. Il y a toute sa famille, tous ses amis autour. Et puis, ce road manager a pris place sur l'espèce de petite chaire qu'ils avaient mis dans un coin de la salle. En fait, c'était une chapelle ardente, quoi, dans un funérarium. Et il a pris 3 bougies. Il en a allumé une pour Luther, une pour l'esprit et une pour nous. Et j'ai trouvé que c'était fantastique, cette façon de commencer une cérémonie qui a duré toute la journée jusqu'à 2h du matin. Ça s'est terminé ensuite en musique dans le club de Buddy Guy à Chicago, où tout le monde est venu jouer, tout le monde est venu apporter son témoignage. Alors l'après-midi, c'était plus la famille quand même qui a eu la parole. Je me souviens de Germaine, qui était un des 2 jeunes rappeurs. Et quand tout le monde est venu témoigner pour son grand-oncle, donc, pendant la cérémonie, lui, il a esquissé quelques pas de hip-hop devant le cercueil. Il a dit un espèce de rap, et puis à la fin, les mots se sont étranglés dans sa gorge. Il s'est mis à chialer. Enfin, c'était très émouvant, mais en même temps très beau et complètement dans l'esprit de ce que Luther aurait voulu, puisque ça, il nous l'a dit. Il a dit « Je m'en vais, mais soyez heureux, aimez-vous les uns les autres et faites en sorte que ce monde devienne meilleur tous les jours. » Quoi. Bon, c'était vraiment l'esprit du père Luther.
Au fil des années, Luther Allison et Patrick Verbeek avaient lié amitié et une complicité sincère unissait ces deux artistes à travers une certaine vision du blues dictée par la tolérance et la générosité. Patrick Verbeek.
Notre rencontre s'est faite par plusieurs petites étapes, c'est-à-dire que quand il est arrivé en France, il a commencé à tourner à la fin des années 70. Comme tout le monde, j'étais un fan de la première heure et j'allais le voir en concert. Et puis il y a eu un événement un peu décisif, je crois que c'était au tout début, c'était en 81 ou 82. Son guitariste rythmique l'a lâché, lui a fait faux bond pour un concert à Paris. Et il s'est trouvé que, bon, il avait mon numéro de téléphone, il m'a demandé de venir. Et ce jour-là, ben, comme il n'était pas sûr, bon, il ne me connaissait pas très bien, il ne savait pas si j'allais faire l'affaire. Alors il avait demandé à plusieurs guitaristes de venir. Et donc, on s'est retrouvé 4 comme ça. Il a dit, les amis, je préfère vous faire venir à tour de rôle. Comme il faisait ensuite, par la suite, souvent dans ses concerts, c'était son plaisir de faire jouer un petit peu ses amis. Et là, on a joué à tour de rôle. Il y avait le guitariste de Miles Davis, je me souviens. Il y avait un certain Paul Cooper de Chicago. Et puis, je ne sais plus qui d'autre. Et on a joué comme ça. Et à la fin, pour le rappel, moi, j'étais déjà dans les loges. Enfin, j'étais presque parti. Et puis, quelqu'un est venu en courant me dire, mais dis donc, il te rappelle, c'est toi qui le rappelle. Donc, j'étais j'étais vachement content. Je suis revenu en courant sur scène et j'ai terminé le concert avec lui. Et après, on se croisait dans les concerts comme ça. Et puis, c'était toujours un bœuf. Alors, soit c'était un de mes concerts ou un de ses concerts, ou quelquefois, je faisais sa première partie, des choses comme ça. Et puis, il y a eu un événement en 90, c'est qu'on nous a proposé de faire l'émission de radio, mais à l'acoustique. Et lui, était un peu rechigné un peu à prendre la guitare acoustique. Il dit non, moi j'en ai pas joué depuis mon adolescence, je suis nul à l'acoustique et tout. J'ai dit écoute, si tu veux, on va répéter 2 heures chez toi et puis je suis sûr que ça va rouler. Et en fait, ça roulait parfaitement. Et on a fait ce show radiophonique. Et puis le lendemain, j'avais déjà des coups de fil des gens qui avaient entendu et qui nous demandaient quand est-ce et où se produisait-on comme ça en duo acoustique. Alors là-dessus, la réaction de Luther a été vraiment géniale. Il m'a dit écoute, moi j'ai un groupe à faire tourner, des mecs à faire vivre, donc ça passera toujours en priorité. Mais par contre, quand j'aurai des trous dans mon planning, si tu veux bien trouver des concerts acoustiques, eh bien écoute Patrick, je te donne carte blanche, enfin carte blues même, et tu gères cette affaire, et je te fais confiance, mais dans la mesure où le planning correspond, ben, je serai toujours là. Eh bien, on se retrouvait sur scène, et on jouait des classiques du blues, et je crois que ça lui a donné envie d'ailleurs, puisqu'en 93, il a enregistré son album acoustique, auquel j'ai participé. Et je dois dire que là, il a vraiment redécouvert un truc. Je crois qu'il s'est rapproché de ses racines. Et puis ensuite, ça a été le renouveau, en fait. Est-ce que, bon, on peut toujours rêver, mais est-ce que le fait de l'avoir replongé dans le style du Mississippi Delta Blues, comme ça, avec l'acoustique, il est retourné un peu dans le Delta à cette époque-là. Il avait voulu oublier son enfance malheureuse, c'est vrai, en Arkansas. Il est retourné en Arkansas, il a joué là-bas. Il s'est aperçu que les choses avaient quand même changé énormément, même si ce n'était pas encore tout rose, mais bon. Et il se trouve que donc, à la sortie du Delta, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Memphis. Et c'est à Memphis qu'il a enregistré ses 3 derniers albums. C'est ceux-là qui lui ont apporté la consécration, je dirais, aux États-Unis. Alors, je crois qu'il y avait tout un chemin là qui avait été suivi par Luther depuis la fin des années 80, un espèce de renouveau, quelque chose où il s'était ressourcé. Et moi, je dois dire que j'étais vraiment fier d'en faire un tout petit peu partie.
Good Morning Love, l'expérience acoustique de Luther Allison sous l'impulsion de ses proches, Bernard Allison, son propre fils, ou Patrick Verbeek, l'ami fidèle qui contribua au succès tardif des années 90.
Là, Luther était en train de nous apporter quelque chose, c'est ça qui est d'autant plus rageant, nous apporter vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que non seulement il y avait le musicien, le guitariste extraordinaire, le chanteur fabuleux, parce que ça on l'oublie souvent, mais il faut réécouter justement ces derniers enregistrements sur lesquels il y a des morceaux. Moi, ça me fait penser des fois à Otis Redding. Bon, quelque part, c'était aussi le successeur de ce style de musique plus soul, plus peut-être rhythm and blues. Et puis, je dois dire qu'il y avait surtout le message qu'il essayait de faire passer. Les paroles qu'il faisait bien souvent, d'ailleurs, avec sa compagne, avec Rocky Brown. Et dans ses paroles, c'était sans arrêt. On retrouvait toujours ces thèmes de lutte contre l'injustice, contre le racisme, pour l'égalité, pour la liberté. Enfin, c'est vraiment quelqu'un donc, qui a été sur le terrain et qui pouvait vraiment en parler. Et c'est ce qu'il était en train de faire dans ses derniers albums et qui était pour moi d'une qualité à la fois constante, mais même je crois que ça montait vraiment. C'est trop dommage qu'il soit parti si tôt.
Luther Allison était un homme chaleureux, ouvert, altruiste, qui dans un large sourire vous accordait sa confiance et vous invitait au dialogue. Mais derrière cet élan de fraternité, il y avait un message d'unité qu'il martelait sans cesse comme pour conjurer les dérives et les relents racistes de notre époque. Chacune de ses compositions était une réflexion sociale, une mise en garde du vieux sage qu'il était devenu.
Il y a un morceau qui s'appelle Move from the Hood, qui est sur son avant-dernier album, dans lequel il a eu du mal à m'expliquer parce qu'il employait plein de mots d'argot, comme il le disait lui-même, « I don't speak English, I don't speak French, I speak blues ». Et c'est vrai que « move from the hood », c'est de l'argot, ça veut dire « casse-toi de cette zone », quoi, en fait. Et c'était une façon de dire aux jeunes, « attends, si t'es planté dans une banlieue et puis que t'arrives pas à t'en sortir et puis qu'il y a autour de toi la délinquance, la drogue et tout ça, mais casse-toi, mon pote. Et même si t'as rien, de toute façon, il vaut mieux être ailleurs avec rien que là avec rien, ou pire encore. » Enfin, il avait vraiment une espèce de philosophie. Enfin, pour moi, à chaque fois qu'il parlait, je buvais ses paroles. C'est vraiment quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Quand il signait un autographe, il mettait toujours « blues égale love égale feeling ».
Comme son ami Luther Allison, Patrick Verbeek nous a quittés également en plein mois d'août. C'était le 22 août 2021. Nous garderons un souvenir fort de ces deux complices au grand cœur. Un autre musicien de grand talent a longtemps partagé la scène avec Luther Allison, c'est le trompettiste Bonnie Fields, que nous avions eu la chance d'accueillir dans nos studios le 2 novembre 2013.
Well, Luther Allison is like a father that I didn't have. When I joined the Luther Allison band, he took me under his wing and showed me exactly what to do and what not to do in music. He was one of my main influences. And I wish I can record every song that he did. But I picked out some of my favorite. Freedom happened to be one of my favorite songs that we did together. And his son, Bernard Allison, also recorded Freedom. So it was just my privilege that, you know, it was okay for the family and okay for everybody for me to do the song again, you know, and continue his legacy.
Vous savez, Luther Allison, c'est un peu un père pour moi. Il m'a pris sous son aile. Et il m'a surtout appris à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses. Il m'a dit « fais attention aux choix que tu fais ». C'est une influence majeure pour moi, Luther Allison. Il se trouve que j'ai choisi de reprendre son titre « Freedom », mais j'aurais pu reprendre n'importe quelle chanson de Luther Allison parce que c'est un grand personnage. Son fils a également interprété « Freedom », mais cette chanson, pour moi, a vraiment une valeur particulière. Et donc, je voulais absolument interpréter et reprendre « Freedom » comme un hommage à ce grand personnage qu'était Luther Allison. Que raconte ce titre « Freedom » ?
The main thing of freedom is talking about uplifting the black culture. You know, stop living in the same poverty and open up your mind, free your mind, you know, pick up yourself, make yourself stronger. It says, talking about South Africa, say it's a shame. Hard times are gone, but we look for someone to blame. You know, that tells the story. It's because we, black people had a tendency of always blaming something on, and they have to learn to build up. We build up, and we're coming up. We're coming up. People, let me tell you, everyone is the same. People have been mistreated. When will it change? Let's talk about the future. And forget about the past. We have to learn to live together if we want this world to last. You know, all these things help, you know, to build up and bring a new rising on social awareness. Mm.
Cette chanson Freedom est très importante parce qu'elle a permis d'élever un peu le débat. Le but, c'est justement de donner plus de valeur à la culture noire à travers cette chanson, d'essayer d'ouvrir l'esprit de tous ceux qui nous écoutent et notamment la communauté noire. Il a pris comme exemple, Luther Allison, à travers cette chanson, l'Afrique du Sud. Et il disait dans cette chanson, c'est une honte ce qui se passe en Afrique du Sud. Essayons d'aller plus loin, essayons de regarder vers l'avenir. Et il faut voir plus loin, il faut avancer. Dans cette chanson, il dit clairement, il faut penser à l'avenir, il faut être ensemble, tous ensemble, et il faut véritablement essayer de faire en sorte qu'il y ait une réflexion sur la société, sur ce que nous sommes, nous, la diaspora noire dans le monde. Voilà ce qu'est ce titre Freedom.
South Africa. Say it's a shame. Hard times are gone, and we look for someone to blame. Well, people, let me tell you, everywhere you go, it's the same. People have been mistreated. When will it change? Let's talk about the future. We fought for self-respect. We fought for equal rights. We know a long time that apartheid ain't right. I'm talking about freedom.
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 Talking about freedom, y'all.
Freedom, l'hommage de Bonnie Fields à son très cher ami Luther Allison. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans les propos de Patrick Verbeek, Luther Allison avait un fils, Bernard Allison, qui a dû batailler ferme pour se faire un prénom tant l'aura de son père était imposante. Nous avions eu le bonheur de le rencontrer en 1993 alors qu'il n'était qu'un jeune artiste en devenir et il reconnaissait volontiers que la figure paternelle lui faisait de l'ombre.
I think it's going to take a while, you know. A lot of people know my father and they don't necessarily know me, so.
Je pense que ça prendra du temps. Beaucoup de gens connaissent mon père avant de me connaître moi. Il y a toujours ce réflexe de dire Bernard Allison, le fils de Luther Allison. J'espère qu'on prendra l'habitude de m'appeler Bernard plutôt que le fils de. C'est la réalité, mais j'ai aussi un prénom. Ça peut être bon comme mauvais. Je pense qu'aujourd'hui, le nom Bernard Allison est un peu mieux connu. Les gens font plus facilement la différence entre le père et le fils, au niveau de la voix ou du jeu de guitare. Je pense que ça passera, mais lentement. Il y aura toujours quelqu'un pour dire le fils de Luther Allison. Je comprends très bien cela. Il faut être patient pour que le public vous reconnaisse en tant qu'artiste à part entière, vienne à votre concert ou achète votre CD, et dise enfin « Je viens voir Bernard Allison. Il ne sonne pas comme son père. » Voilà le genre de réflexion que j'attends, être reconnu en mon nom propre.
And that would make me feel great, you know, to be recognized under my own name, you know.
You're a good woman. You're all I need. We're gonna have a lot of fun, yeah. When we please, love. Gave you what you need. Anyway, darling, I gave it all.
Vous écoutez actuellement un extrait de High and Lows, le dernier album en date de Bernard Allison, dans lequel il adapte deux compositions de son père, Luther Allison, comme une révérence à celui qui lui mit le pied à l'étrier.
Well, I always used to see my dad come home, pick up the guitar.
Vous savez, j'ai toujours vu mon père une guitare à la main, sortant des sons merveilleux de ce drôle d'objet. J'ai d'ailleurs souvent répété à ma mère, voilà ce que je veux faire. En fait, j'ai commencé à gratouiller à l'âge de 10 ans, en essayant de reproduire quelques titres de mon père. Et puis à 12 ans, je savais déjà jouer 3 ou 4 chansons avec mon père, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il m'avait invité à enregistrer live avec lui dans l'Illinois. De toute façon, j'écoutais déjà de longue date Lightning Hopkins, Albert King, Muddy Waters. Mon père écoutait ces disques-là et y cherchait l'inspiration. J'ai en quelque sorte été formé par ces grands musiciens.
Trying to write his own music as well, so I got a chance to get influenced by those players as well.
Avant de nous quitter, j'aimerais vous faire entendre les propos réfléchis du regretté Luther Allison. En février 1990, nous avions eu le privilège de rencontrer cette immense personnalité trop peu célébrée. Et comme toujours, le bluesman profitait de cette conversation radiophonique pour asséner quelques vérités.
When I first came to France, okay, I came to France with an all-white band, for instance. okay, which is.
Lorsque je suis arrivé en France, mon groupe n'était composé que de musiciens blancs. On me critiquait pour ce choix jusqu'aux États-Unis. Mais il faut se souvenir que Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis, B.B. King ont toujours fait appel à des musiciens de toute nationalité. Cela ne leur posait aucun problème. Pourquoi cela devrait-il être différent pour moi? Les Noirs doivent imposer leur identité, doivent protéger leur patrimoine. N'oublions jamais que le gospel, la country music, le blues, le jazz sont issus du même terroir. Et nous, les Afro-Américains, nous étions là par hasard, on nous a mis de côté, on a façonné notre existence contre notre gré. Puis vint le rock'n'roll, issu de notre tradition. On nous a dit qu'Elvis Presley était le king. Pour moi, c'est Chuck Berry. La musique noire nous appartient au moins à ce niveau-là. Mais je ne suis pas extrémiste, je n'ai pas été élevé ainsi. J'entends des frères noirs américains qui militent pour la reconnaissance du patrimoine noir du blues. Mais pourquoi les noirs joueraient-ils mieux le blues et les blancs seraient-ils les rois du rock'n'roll? C'est absurde, puisque le rock est né du blues. Ça n'a pas de sens.
But why can you say we can do blues better and the white guy can do rock and roll better? This don't make sense to me because rock and roll comes straight from the blues.
Bonnie Fields, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche multiculturelle du blues qu'avait Luther Allison?
It's exactly true, you know. I mean, it's like Luther said, you know, it's our music, black music, we invented it. But that don't mean we're the best at it, you know. Everybody been listening to this music all over the world for past generations. And there's a lot of musicians that I know that are a different culture other than black. It's like amazing. So, total respect.
J'ai un respect total pour ce qu'a dit Luther Allison. Il a dit exactement ce que je pense. Luther Allison dit, c'est notre musique. Mais il a tellement raison. Mais en même temps, même si nous avons inventé cette musique-là, il ne faut pas dire que nous sommes les meilleurs. Il y a plein de musiciens qui jouent dans différentes régions du monde et qui ont leur culture, qui savent jouer le blues comme personne. Il ne faut jamais dire que nous sommes les meilleurs. C'est vrai que cette musique nous appartient, mais elle s'est propagée dans le monde entier et elle appartient désormais à tout le monde. Et ça, c'est très important. Et ce que dit Luther Allison est très vrai. Serious, l'une des plus vibrantes compositions de Luther Allison, qu'il interprétait à chacune de ses prestations, souvent soutenue par quelques invités surprises, comme par exemple le vétéran Albert Collins, lors d'un festival en région parisienne il y a 30 ans. Le genre de cadeau que nous offrait Luther Allison à la fin de ses concerts. Cette émission, en hommage à une grande figure de l'épopée des musiques noires disparue il y a un quart de siècle, était réalisée avec toute la sensibilité requise par Nathalie Laporte. La semaine prochaine, nous saluerons un autre grand personnage parti en 1997. Il s'agira du batteur Tony Williams. D'ici là, passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.